merci Jeff, merci Francis, qui ont été assez clairs pour expliquer un peu tout ce qui se passe dans notre église. Alors oui, comme je viens de vous dire, c'est le culte de rentrée et j'aimerais partager une parole par rapport à nouveaux défis que nous relevons à chaque rentrée de classe. C'est vrai que la rentrée scolaire ou professionnelle est souvent un moment où on doit anticiper. Oui, c'est vrai, on doit anticiper. Moi, avant de commencer, en tout cas, pour la rentrée, je dois quand même faire pas mal de choses et je n'ai pas encore fini. Et donc, oui, je pense que certains d'entre vous aussi, hein, vous devez aussi anticiper avant de commencer votre travail ou vos études. Parfois, ça peut être aussi un moment d'incertitude. En tout cas, il y a plein de défis à relever. Je sais que quand j'ai posé la question à ma femme qui est prof, elle me disait oui, avec des changements d'administration, j'ai plein de choses encore à mettre en place et puis il y a plein de problèmes, etc., etc., au niveau de réorganisation. Oui, on peut rencontrer des difficultés inattendues. Peut-être que vous n'avez pas toutes ces inquiétudes avec la rentrée, ou peut-être que vous entrez dans cette saison avec des inquiétudes. Peut-être aussi vous recherchez un nouvel emploi. J'ai discuté avec quelqu'un là cette semaine et cette personne effectivement recherchait un nouvel emploi durant cette année. Et donc voilà, un changement, une période de transition pour elle. Et puis d'autres, en tout cas, ils ont des nouvelles attentes. Et puis il y a des relations à gérer, parce que nouvelle rentrée veut dire aussi que nous rencontrons beaucoup de nouvelles personnes. Et ça veut dire aussi que, voilà, parfois, on peut rencontrer des problèmes relationnels, n'est-ce pas? Et c'est jamais facile de vivre ensemble avec d'autres personnes, et surtout travailler ou étudier ensemble avec d'autres personnes. Et dans ces moments-là, la parole de Dieu nous dit, Dieu nous appelle à trouver notre force en lui. Et je suis en fait dans la série de prédications sur David, et c'est ce que j'aimerais encore partager. Alors je vous invite à ouvrir votre Bible si vous en avez. C'est dans 1 Samuel chapitre 30. Si je vous dis Ziklag, ça vous dit quelque chose? Oui, Ziklag. Il y a certains qui disent oui, je connais Ziklag. Pour d'autres personnes, peut-être, vous avez entendu, vous avez lu, vous avez peut-être, mais ça vous dit pas grand-chose. Alors j'aimerais quand même expliquer le contexte. J'avais déjà prêché auparavant sur l'appel de David. Je vous avais aussi parlé le duel entre Goliath et David. Je vous avais aussi parlé la dernière fois sur la caverne d'Adullam, où justement David, le futur David, le roi David, a été pourchassé, persécuté par le roi actuel, le roi Saül. Alors, David n'est pas encore devenu roi. Il est encore pourchassé par le roi Saül. Et le contexte dans 1 Samuel 30, enfin plutôt, il faudrait peut-être regarder 1 Samuel 29. David qui fuyait le roi Saül n'est plus en Israël. Là, il a quitté le pays et maintenant il est parmi les Philistins. Et vous savez que voilà, hein, les Philistins sont des ennemis d'Israël, mais le fait qu'ils soient la cible du roi Saül, ça lui a permis en tout cas de changer d'endroit. Et heureusement, Dieu a fait en sorte que le roi philistin était assez indulgent. Il l'a accueilli à bras ouverts. Il a cru que voilà, il avait vraiment tourné le dos contre l'Israël, et donc le roi philistin l'avait bien accepté. Et puis au chapitre 29, les Philistins se préparaient à une grande bataille contre Israël, et donc David et ses hommes qui se trouvaient dans le pays des Philistins, ils étaient aussi obligés un petit peu à participer à cette guerre, à ce combat contre l'Israël. Heureusement, les chefs philistins, ou plutôt les seigneurs des Philistins, étaient méfiants à l'égard de David. Il craignait que durant la bataille, David se retourne contre eux pour regagner la faveur du roi Saül. Et donc il disait que David ne descende pas avec nous au combat, de peur qu'il ne se retourne contre nous en plein bataille. Voilà, donc le roi philistin qui était très indulgent, qui croyait en David, que vraiment il avait tourné sa veste, qu'il était maintenant avec les Philistins, le roi philistin Achish accepte à contre-cœur de le renvoyer. Et donc il dit à David de retourner à Siklag, la ville que les Philistins lui avaient donnée comme résidence. Voilà le contexte. Donc là, on vient d'apprendre que David, qui a fui le roi Saül, il est avec ses amis vivant dans la terre, sur la terre des Philistins. Et cette terre s'appelle Siklag. Maintenant, vous savez ce que c'est, Siklag. J'aimerais vous lire les 15 premiers versets dans le chapitre 30. Lorsque David arriva le troisième jour à Siklag avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi et à Siklag. Ils avaient détruit et brûlé Siklag. Après avoir fait prisonnier les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petites et grandes, ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout emmené et s'étaient remis en route. David et ses gens arrivèrent à la ville et voici, elles étaient brûlées. Et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient emmenés captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. Les deux femmes de David avaient été emmenées à Shinoam de Israël et Abigaël de Carmel, femme de Nabal. David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Il dit au sacrificateur Abiatar, fils d'Achimélec, « Apporte-moi donc l'éphod. » Abiatar apporta l'éphod à David, et David consulta l'Éternel en disant, « Poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je? » L'Éternel lui répondit, « Poursuis, car tu atteindras, et tu délivreras. » Et David se mit en marche, lui et les 600 hommes qui étaient avec lui. Ils arrivèrent au torrent de Bézor, où s'arrêtèrent ceux qui restaient en arrière. David continua la poursuite avec les 400 hommes. 200 hommes s'arrêtèrent, trop fatigués pour passer le torrent de Bézor. Ils trouvèrent dans les champs un homme égyptien qu'ils conduisit auprès de David. Ils lui firent manger du pain et boire de l'eau. Et ils lui donnèrent un morceau d'une masse de figues sèches et deux masses de raisins secs. Après qu'ils eurent mangé, les forces lui revinrent, car ils n'avaient point repris de nourriture et point bu d'eau depuis 3 jours et 3 nuits. David lui dit, « À qui es-tu et d'où es-tu ?» Il répondit, « Je suis un garçon égyptien au service d'un homme amalécite, et voilà 3 jours que je suis... que mon maître m'a abandonné parce que j'étais malade. Nous avons fait une invasion dans le Midi des Carétiens sur le territoire de Juda et au Midi de Caleb et nous avons brûlé Siklag. » David lui dit, « Veux-tu me faire descendre vers cette troupe ?» Et il répondit, « Jure-moi par le nom de Dieu que tu ne me tueras pas et que tu ne me livreras pas à mon maître. Et je te ferai descendre vers ces troupes. » Amen. Jusqu'ici notre lecture. Voilà donc à peu près l'histoire. Lorsque David et ses hommes, après avoir été refusés par les Philistins, ils retournent chez eux à Siklag. Et après avoir été donc renvoyé par les Philistins, il découvre quoi? Il découvre que la ville avait été attaquée et brûlée par les Amalécites. Ces envahisseurs avaient enlevé les femmes, les enfants et tout le bétail. Mais heureusement, ils n'avaient tué personne. Mais malgré tout, c'était une grande tristesse pour ces gens-là. Ils pleurèrent jusqu'à l'épuisement. Alors, est-ce que ça vous dit quelque chose si je vous dis les Amalécites? Les Amalécites, on les voit souvent dans l'Ancien Testament. Et ce qu'on peut remarquer, c'est qu'ils étaient assez mesquins, assez, comment on dit ça, lâches dans leur bataille. Est-ce que vous vous rappelez l'épisode où l'Israël, tout l'Israël était esclave en Égypte et que, avec Moïse, à la sortie d'Égypte, ils vont errer pendant 40 ans dans le désert. Et pendant leur errance, les Amalécites apparaissent et ils attaquent l'Israël, mais de quelle manière? En fait, dans Deutéronome 25, il est écrit que les Amalécites attaquaient les Israélites à l'arrière du convoi. C'est pas au devant. Voilà, moi je vais me battre contre toi, et comme David et Goliath, hein, venez, on veut bien vous battre. Non? Eux, c'est un peu plus lâche, très mesquin, par derrière, et ils ciblent d'abord les plus faibles, les plus fatigués, ceux qui sont en tout cas en arrière. Et là, donc, on voit aussi la même épisode. Les Amalécites attaquent Siclag, où il n'y avait aucun homme. Enfin, ceux qui étaient capables d'attaquer, en tout cas, faire la bataille. Il n'y avait que les enfants et les femmes. Donc, en voyant cette situation, en voyant la ville brûlée, leur famille envolée captive, partie en captif, certains des hommes de David étaient tellement en colère qu'ils parlaient de lapider leur propre chef, David. Est-ce que vous me lapiderez si j'ai quelque chose en tort? Je ne sais pas, mais en tout cas... ils voyaient cette situation, enfin, ils ne pouvaient pas accepter cette situation, et donc ils voulaient trouver un coupable. Et ils ont trouvé le coupable, c'était leur chef. Je vous rappelle que c'est pas David qui les a appelés à venir vers lui. Hein? Quand il s'est réfugié dans la caverne d'Adullam, ce sont des hommes en détresse, des hommes endettés, des hommes mécontents de Saül qui venaient le rejoindre, eux avec leur famille. Ils étaient 400. Et là maintenant, ils sont 600 hommes. Quand je dis 600 hommes, sans parler des femmes, sans parler des enfants. Donc, à mon avis, ça fait 1600, hein, donc en tout, si on compte leurs épouses plus les enfants, même peut-être en tout cas minimum 2000 personnes, je suppose, parce qu'ils n'ont pas fait seulement un enfant, n'est-ce pas? Ils ont dû faire plusieurs enfants, donc ils étaient très très nombreux, mais en tout cas, ils ont perdu leur famille, leur propre famille. Ça devait être vraiment une profonde tristesse. Ils devaient être vraiment dans le désespoir total. Et puis, ils rencontrent sur le chemin, ils décident de partir, et ils rencontrent sur le chemin un Égyptien, lorsqu'ils partent à la poursuite des pillards. Et cet Égyptien, abandonné dans un champ, affamé, malade, David lui offre de la nourriture et de l'eau. Il aurait pu passer sans faire attention à cet homme, mais parfois, il s'est souvenu aussi de la loi de Dieu, les commandements de Dieu qui dit de prendre soin des gens et surtout des étrangers qui sont affamés, qui sont démunis. Et donc, il a vraiment montré sa compassion et il apprend que c'était un des serviteurs des Amalécites. C'est comme ça qu'il va pouvoir prendre, en tout cas, les bonnes informations pour pouvoir les suivre. Alors, je reviens en tout cas au verset, enfin au début, quand il traverse ce moment de crise, qu'est-ce qu'ils font? Voilà, ils trouvent leur ville détruite par le feu, les familles enlevées par les Amalécites. Leur douleur est immense, ils pleurent jusqu'à ce qu'ils n'aient plus de force. C'est un moment de profonde désolation. À la rentrée, comme je vous avais dit, nous faisons face à de nouveaux défis. On peut rencontrer des problèmes qu'on n'avait pas attendus. J'ai appris cette semaine une sœur de l'église qui est devenue malade, un cancer. Il se peut que ça soit assez sévère. Ça m'a fait mal. Je pense que voilà, on peut dire que elle traverse en ce moment un moment de zigzag où on ne sait pas quoi faire et toute la famille aussi souffre avec. On peut traverser des moments de crise où tout semble perdu, que ce soit dans les domaines scolaires, professionnels, familial, au niveau santé aussi. Mais il est important de reconnaître ces moments difficiles. Il ne faut pas fuir la réalité, comme ces hommes qui essayent de trouver autre chose. Mais nous devons accepter, nous devons faire face à la douleur tout d'abord, et puis reconnaître les pertes, reconnaître et surtout accepter les défis qui se présentent devant nous. Et puis, peut-être deuxième point, je dirais, il ne faut pas céder à la panique ou au désespoir. Lorsque les hommes de David voient la catastrophe, ils sont tellement remplis d'amertume qu'ils parlent de lapider David, donc, tout à l'heure, comme je vous avais dit tout à l'heure. Dans leur désespoir, ils cherchent quelqu'un à blâmer. Ce sentiment de désespoir est compréhensible, mais c'est très dangereux. C'est très dangereux parce que si nous nous laissons emporter par la peur, par la frustration, par le découragement, nous risquons aussi de prendre de mauvaises décisions. David aurait pu aussi se plaindre auprès du Seigneur en disant « Mais Seigneur, pourquoi moi qui te suis, je dois traverser ça? Pourquoi je dois perdre ma famille? Pourquoi je dois être dans ce pétrin ?» Mais au lieu de se plaindre, David, comme les autres, David choisit une autre voie. Et j'aime bien cette phrase qu'il prononce au verset 6. David reprit courage. C'est ce qu'il est dit au verset 6. David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Ce n'est pas le Dieu des autres ou le Dieu des parents ou le Dieu de mon voisin, mon copain. Non, c'est son Dieu. Il reprend courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Même si nous marchons, c'est vrai, dans la marche de l'ombre de la mort, c'est quoi l'ombre de la mort? On est très proche de la mort. La mort est tout près. Mais le psaume 23, il dit que nous n'avons rien à craindre parce que la houlette, et ton bâton nous rassurent. Dieu est présent. Dieu est avec nous, c'est pour ça que même si nous traversons dans la vallée de l'ombre de la mort, nous n'avons rien à craindre, d'après le psalmiste 23. De même, lorsqu'une rentrée se déroule mal, il est facile de céder à la panique, mais peut-être que vous faites aussi face à une surcharge de travail, des tensions dans vos relations, des tribulations, des épreuves de la vie de tous les jours, des échecs dans vos objectifs. Dans ces moments-là, il ne faut jamais laisser le désespoir vous dominer. Ne cherchez pas non plus à blâmer les autres en disant que ce n'est pas ma faute, c'est toujours, ça doit être toujours la faute des autres, ce qui m'arrive. Non. Prenez exemple sur David et apprenez à vous appuyer sur Dieu. Parce que Dieu est là. Dieu est là. Et puis, comme je vous avais dit, le point clé de cette histoire se trouve dans cette phrase. David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Face à la perte, David ne se tourne pas vers sa propre force ni vers les autres, mais il se tourne vers Dieu. Et voilà. Je ne sais pas, ça m'arrive aussi que je sois sans force. Voilà, dans ces moments où on se sent vraiment sans force, il faut se tourner vers Dieu parce que en lui, il y a une source inépuisable. Il a cette puissance inépuisable de force pour nous remplir, pour nous renouveler, pour nous donner la motivation de continuer à aller de l'avant. Et pour qu'on puisse avoir aussi le courage pour pouvoir avancer. Quelles que soient les difficultés que vous traversez en ce moment, apprenez à puiser votre force en Dieu. Prenez le temps de prier. Prenez le temps de méditer la parole. Prenez le temps de vous rappeler les promesses divines. Et dans ces moments c'est dans ces moments-là, dans cette relation avec le Seigneur, que nous pouvons vraiment recevoir la paix de Dieu. Puis souvenez-vous que vous n'êtes jamais seul, Dieu est toujours avec vous, et dans chaque défi, il est prêt à vous soutenir, à nous soutenir. Comme je vous avais dit, oui, prenez le temps de prier. La prière, ce n'est pas une sorte de, comment je peux dire ça, un rite qu'on doit respecter. Vous savez, la prière, tout le monde prie, même si on n'est pas chrétien. Je vois beaucoup de gens, hein, même les sportifs qui ne sont pas chrétiens, ils prient. Hein, il y a d'autres personnes des autres religions qui prient aussi. Mais ce n'est pas ça le plus important, ce n'est pas le rite ou le fait. Parce qu'on n'a pas prié, aussi on peut se sentir coupable, ce n'est pas ça qu'il faut. Ce n'est pas ça le plus important. La prière, c'est quoi? C'est un moyen pour être en contact avec le Seigneur. C'est ça qui est le plus important. Comment, non pas se connecter à notre Internet, mais comment se connecter à Dieu? On n'est pas obligé de faire une grande prière avec des versets appris par cœur, non. C'est vrai qu'avant, quand j'étais petit, quand je voyais les anciens prier avec des grandes prières, je ne sais pas si vous vous rappelez, hein, des personnes comme ça qui font des prières avec les psaumes appris par cœur, et j'ai dit, waouh, quelle prière formidable! Je ne pourrais jamais faire comme ça. Bon, en fait, je pense que chacun a des dons différents. On peut prier, certaines personnes peuvent prier comme ça, mais le plus important, mais comment être en contact avec le Seigneur, par la prière. On peut juste faire un petit mot, avec un balbutiement aussi. Le Seigneur nous écoute, et on peut entrer en contact. Et c'est comme ça que nous pouvons expérimenter, même déposer tous nos fardeaux. David, dans ces moments difficiles, il a décidé d'aller vers le Seigneur pour déposer ses fardeaux. Et le plus important, c'est que, après avoir été renouvelé par Dieu, après avoir trouvé la force en Dieu, David demande conseil encore à l'Éternel et il lui demande au Seigneur, « Dois-je poursuivre ces troupes? L'atteindrai-je ?» Même si c'est évident d'aller pourchasser, il décide de s'arrêter pour demander à Dieu. Dieu lui répond favorablement, lui disant de poursuivre et qu'il récupérait tout. Et donc, après avoir entendu la réponse positive de Dieu, il était rempli de foi et de confiance en cette parole, et puis il agit. De même, n'est pas parce que nous avons déjà prié que tout est fini. Il faut aussi recevoir une certaine réponse du Seigneur et agir aussi dans le bon sens. Il fallait partir à la poursuite des Amalécites. David ne reste pas dans l'inaction. Il utilise les ressources qu'il a, même si, voilà, donc il prend les 600 hommes pour aller à la poursuite des Amalécites. Et puis, entre-temps, sur le chemin, 200 étaient tellement fatigués par le voyage, par l'épuisement. Ils étaient trop fatigués pour continuer. Donc, il laisse tomber les 200. Il prend juste les 400 avec lui et il avance avec la foi et surtout avec la certitude que Dieu a déjà préparé la victoire. Amen. Dieu a déjà préparé la victoire pour nous tous. Oui, une fois que nous avons trouvé cette force en Dieu, ne restons pas immobiles, agissons dans la foi. Si Dieu nous a donné une direction, une promesse, allez de l'avant avec courage. Peut-être que cette rentrée semble pleine de défis insurmontables pour certains d'entre vous, mais rappelez-vous que Dieu vous appelle à faire votre part, travailler avec diligence, prier avec foi et faites confiance à Dieu pour le reste. J'aimerais conclure, frères et sœurs, à la fin de cette histoire, David et ses hommes finalement vont récupérer tout ce que les Amalécites avaient pris, y compris leur famille et leurs biens. La promesse de Dieu s'est réalisée et David a remporté la victoire. C'est une belle histoire à la fin. À la rentrée, quelle que soit la taille des défis auxquels vous êtes confrontés, sachez que Dieu est avec vous. Comme David, apprenez à trouver votre force en Dieu, à ne pas céder à la panique, mais à agir dans la foi. Si vous vous appuyez sur lui, il vous donnera la victoire, non pas par vos propres moyens, mais par sa grâce et par sa puissance. Que nous puissions vraiment, pour cela, entrer en contact, être plus à l'écoute du Seigneur pour qu'il nous parle, pour qu'on l'écoute et agir en conséquence. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Je vous invite à la prière. Seigneur, alors que nous entrons dans cette nouvelle saison de rentrée scolaire et professionnelle, nous venons devant toi pour te demander ta force et ta sagesse. Et je vois aussi que dans ces moments, on peut rencontrer plein d'événements qui sont inattendus. Et aide-nous vraiment à, dans ces cas-là, aide-nous vraiment à ne pas céder à la peur ou au découragement face aux défis que nous devons relever. Mais Seigneur, aide-nous à puiser notre courage en toi, Seigneur, comme David l'a fait. C'est toi, l'homme projette, mais c'est toi qui guides nos pas, et guide nos pas, s'il te plaît, et éclaire nos décisions, s'il te plaît. Donne-nous vraiment la foi pour agir selon ta volonté, et puis que cette rentrée soit un temps de victoire. David a expérimenté cette victoire à la fin de cette histoire. Peut-être, même si nous ne vivrons pas cette victoire sur la terre, nous vivrons aussi au ciel. Et en attendant, aide-nous à être patients. Et Seigneur, oui, nous savons que c'est toi qui agis et tu nous demandes aussi d'agir en conséquence. Seigneur, vraiment, voilà, sois avec nous pour cette rentrée scolaire et professionnelle. Nous te demandons, nous te remettons nos soucis et nos espoirs entre tes mains, au nom de Jésus. Amen.